Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des Songes. Lors des précédentes émissions sur le thème rêve et yoga, j'ai à plusieurs reprises affirmé que la structure de la psyché était universelle. Cependant, des différences d'ordre culturel expliquent la diversité de représentation de cette structure psychique et les processus qui l'animent, comme nous avons pu le constater entre l'Inde et l'Occident, notamment à travers les épopées de Rama et de Dante. J'ai donc voulu aborder un thème plus précis, celui du symbole, toujours en lien avec l'analyse des rêves. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un symbole ? Le mot symbole, d'origine grecque, peut être traduit par signe de reconnaissance, signe d'une convention, signe de ralliement. Cela renvoie à ce qu'était réellement un symbole dans la Grèce antique. Au départ, c'est un objet, le plus souvent un tesson de poterie, utilisé dans le cadre d'un contrat. L'utilisation est assez simple. Lorsqu'un accord est trouvé, par exemple pour la livraison d'une marchandise, on casse en deux un vieux morceau de poterie et chaque contractant obtient une partie. Pour être sûr que la livraison se fait bien auprès de la bonne personne, il suffit alors de ressortir les morceaux de poterie et de les rapprocher. S'ils s'assemblent parfaitement, c'est que l'on est bien en présence des bons contractants. Voilà, d'un point de vue historique, ce qu'est un symbole. Un simple morceau de poterie. Mais un morceau de poterie qui permet de rassembler et de rendre compte d'un certain lien entre les contractants. Au cours du temps, la notion de symbole a évidemment évolué, et de nos jours, un symbole peut toujours être un objet, mais également une image ou une idée. Cependant, notre conception contemporaine du terme a maintenu le caractère rassembleur du symbole et la capacité du symbole à rendre compte d'un lien plus ou moins constant avec l'élément symbolisé, c'est-à-dire l'élément qu'il est censé représenter. Pour aller à l'essentiel, on peut définir le symbole comme le lien qui fait sens. Alors une question émerge. Le lien qui fait sens. Mais pour qui et comment ? Je vous propose d'essayer de répondre à cette question en nous concentrant uniquement sur l'interprétation des rêves. Pour cela, commençons par nous intéresser aux notions de contenu manifeste et de contenu latent du rêve. Le contenu manifeste d'un rêve est l'ensemble des images, des idées, des sentiments qui forment le scénario du rêve tel qu'on peut le retranscrire à l'état de veille. Je me permets ici de préciser qu'il est préférable de noter son rêve au réveil, même si cela n'est pas toujours évident. Tout d'abord parce que la mémoire s'amenuise avec le temps, et même si le rêve a été marquant, on s'en souvient toujours mieux au réveil que des jours, des semaines, des mois, des années après. De plus, retranscrire son rêve au réveil évite par la suite que notre souvenir du rêve soit pollué par nos actions et nos idées qui emplissent notre quotidien. Maintenant, il faut reconnaître que tout le monde n'a pas forcément le temps ou la capacité au réveil de prendre un stylo pour écrire son rêve. De nos jours, ce n'est pas un problème car la plupart des téléphones sont équipés d'une fonction dictaphone qui permet d'enregistrer son rêve. Ainsi, on peut rendre compte, au plus près, du contenu manifeste du rêve. Si le contenu manifeste du rêve est important, car c'est sur son scénario que tout repose, c'est quand même le contenu latent du rêve qui nous intéresse. Mais ce contenu latent est beaucoup plus difficile à appréhender. Le lien entre le contenu manifeste et le contenu latent d'un rêve est à peu près le même que celui entre la partie émergée et la partie immergée d'un iceberg. La partie émergée, celle qui est manifeste à nos yeux, peut être facilement décrite et représentée. Par contre, la partie immergée, latente, on sait qu'elle existe et qu'elle est bien plus vaste que la partie visible, mais il nous est difficile d'y avoir accès et de la décrire. Difficile, mais pas impossible. En tout cas, l'humanité, au cours de son histoire, a développé différentes méthodes d'interprétation des rêves, pour tenter d'appréhender au mieux le contenu latent des rêves et découvrir ainsi le sens caché de ce scénario symbolique. Par souci de clarté, on peut regrouper ces nombreuses méthodes d'interprétation des rêves selon trois grands procédés. Le premier procédé s'appuie sur la notion que le rêve a trait surtout à l'avenir, qu'il a une valeur prophétique. C'est ce que les anciens appelaient les songes, que seuls les devins pouvaient interpréter, par opposition aux rêves du quotidien. Cette approche divinatoire des rêves est intéressante et ne doit pas être considérée avec mépris. Cependant, elle concerne les devins. Donc, dans la perspective psychothérapeutique qui est la nôtre, nous n'aborderons pas ce procédé d'interprétation des rêves. Le second procédé, basé sur une méthode de déchiffrage, considère le rêve comme un écrit chiffré, où chaque signe est traduit par un signe au sens connu, grâce à une clé fixe, communément appelée clé des songes. En réalité, comme nous allons le voir plus en détail dans cette émission, les clés des songes actuelles ont une approche un peu plus subtile que celle de l'Antiquité, âge d'or des clés des songes. Nous y reviendrons. Enfin, le troisième procédé, basé sur la notion d'inconscient, considère le rêve comme l'expression d'un message codé issu de l'inconscient et adressé au conscient. La différence avec une clé des songes réside justement dans la notion d'inconscient, qui est propre à chaque individu, à chaque sujet. Et l'inconscient pouvant être défini différemment, par exemple selon Freud ou selon Jung, cela produit des méthodes d'interprétation de rêves très différentes. Mais pour ce qui est de Freud et Jung, nous nous y intéresserons dans les prochaines émissions. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage aux clés des songes. Aussi loin que l'on puisse remonter, il apparaît que les sociétés humaines, quelles qu'elles soient, se sont toujours intéressées aux rêves. Ainsi, on retrouve dans les écrits les plus anciens qui nous sont parvenus des récits de rêves, comme par exemple dans l'épopée de Gilgamesh, vraisemblablement composée au 3e millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, dans l'actuel Irak. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient tenté de percer les mystères des rêves en développant des méthodes d'interprétation, divinatoires et basées sur des clés des songes. Les clés des songes ont pour but de cataloguer des éléments ou des situations qui apparaissent le plus fréquemment dans les rêves et d'y associer un bon ou un mauvais présage. On peut alors se demander quelle est la pertinence de cette association entre un élément du rêve et un bon ou un mauvais présage. Seule l'expérience, c'est-à-dire l'approche empirique, permet de composer une clé des songes. Il faut pour cela, au préalable, avoir perçu qu'il existe un rapport constant entre un élément dans les rêves et un bon ou un mauvais présage. Pour que cette remarque empirique soit valide et apparaisse dans une clé des songes, il faut que ce rapport entre l'élément et le présage soit constant dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que l'interprétation proposée doit être valide chez le même individu en tout temps, mais que l'interprétation doit également être valide chez tous les individus qui évoluent dans le même environnement. On peut donc imaginer que les clés des songes pertinentes s'élaborent sur plusieurs générations et qu'elles ne sont pas figées mais évolutive. Ainsi, les clés des songes actuelles sont très différentes de celles de l'Antiquité dont elles s'inspirent. Je propose un exemple tiré d'une clé des songes assyrienne, traduite par Leo Oppenheim dans un article de référence paru en 1956. Alors le texte est disponible uniquement en anglais, gratuitement et légalement, sur le site de l'American Philosophical Society, dont voici l'exemple. Si un homme porte une pousse sur ses genoux et qu'il l'embrasse à plusieurs reprises, cet homme recevra de l'orge et de l'argent. De nos jours, l'ensemble peut prêter à sourire. Le rêve est déjà très original pour nous. Personnellement, je n'ai jamais rencontré dans ma pratique d'analyse de rêve de personne, homme ou femme d'ailleurs, qui ait rêvé qu'elle avait une jeune plante sur les genoux qu'elle embrassait. Il faut se remettre évidemment dans le contexte historique de cette clé des songes. Nous sommes à une époque et dans une région du monde qui a vu l'émergence des premières cités. Cependant, les sociétés de l'époque étaient essentiellement agraires et la Mésopotamie est le berceau occidental de l'agriculture. On peut déjà mieux comprendre comment une telle situation peut apparaître dans les rêves des hommes de l'époque. Ensuite, si on s'intéresse à l'interprétation présage, on voit que l'homme qui fait ce rêve recevra de l'orge et de l'argent, et pas autre chose. Ce qui renvoie à l'interprétation toujours restreinte, extrêmement limitée, que proposent les clés des songes, qu'elles soient antiques ou contemporaines. On se rend également compte que les clés des songes s'adressent à une population particulière qui évolue dans un certain environnement. Si à cette époque, quelqu'un en Chine, ou en Afrique subsaharienne, ou encore en Amérique centrale, avait fait le même rêve, et qu'on lui propose l'interprétation tirée de la clé des songes composée en Mésopotamie, eh bien ça n'aurait eu aucun effet, car ces populations-là ne connaissaient pas l'orge. L'orge est la céréale typique du croissant fertile, comme le riz en Asie, le mil en Afrique ou le maïs en Amérique. On voit donc que la clé des songes que nous avons utilisée a été composée à une époque et dans un environnement bien précis, dans une perspective qui reste essentiellement divinatoire. Toute tentative d'utilisation de nos jours d'une telle clé des songes est donc hasardeuse. Ce n'est d'ailleurs pas les clés des songes qui manquent de nos jours, sans compter la prolifération de sites internet offrant des interprétations rapides et clés en main. Certains livres ou sites internet sont bons et intéressants, mais il faut quand même prendre le temps de les trouver. Ce qui est sûr, c'est que les clés des songes ont toujours suscité beaucoup d'intérêt. Les clés des songes permettent de nourrir une certaine curiosité pour le phénomène des rêves. Les clés des songes offrent également des hypothèses interprétatives de nos rêves et ouvrent ainsi des pistes de réflexion sur nous-mêmes. C'est d'ailleurs l'un des critères, selon moi, pour reconnaître une bonne clé des songes. Tout d'abord, une mise en garde adressée au lecteur sur la non-exhaustivité du travail proposé. Ensuite et surtout, de ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est écrit, mais plutôt d'aménager l'interprétation proposée avec la spécificité du rêveur ou de la rêveuse. Ainsi, commence à poindre la référence à l'inconscient, que ce soit d'un point de vue freudien ou jungien. Si les clés des songes rendent compte d'un rapport constant entre le symbole et le symbolisé au sein d'un groupe culturel, les méthodes d'interprétation des rêves développées par Freud ou par Jung viennent rendre compte du rapport entre le symbole et le symbolisé propre à chaque individu. Et c'est ce que nous aborderons lors de nos prochaines rencontres. À la prochaine fois, et d'ici là, faites de beaux rêves !